Bonjour tout le monde. La série du 15 de France en Coupe du Monde continue. Pour vous rappeler le contexte, si vous n'avez pas écouté les deux premiers épisodes, sur 5 Coupes du Monde, les Bleus ont échoué deux fois en finale, en 87 et 99, après avoir à chaque fois battu l'un des deux grands favoris de la compétition en demi, et avant de buter sur l'autre en finale. Mais les défaites les plus amères sont arrivées en demi-finale, en 95 et 2003. Heureusement, la Coupe du Monde qui se profile en 2007 est la première organisée par un seul pays européen, car jusque-là, les matchs se partageaient à peu près équitablement entre les 5 nations phares du vieux continent. Cette année, seuls 6 matchs seront délocalisés hors de France, dont un quart de finale, disputé dans l'immense Millennium à Cardiff, et ça pourrait avoir son importance. Bon allez, il est temps de se lancer.
Il est parti, Julien Alaphilippe.
Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque.
Elle est presque là, cette victoire. Accélère.
Norma Nodou qui s'envole. Elle est immense, cette championne.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Le sport, c'est bien.
Estera pour continuer à jouer au rat. Que dit Monsieur Spreadbury? Il dit que c'est la fin. L'équipe de France perd ce match d'ouverture. Victoire de l'Argentine 17-12. L'équipe de France prend quand même le point du bonus défensif. Alors rien n'est...
Ce 7 septembre 2007, sur les coups de 22h50, ce sont les sifflets du Stade de France qui accompagnent celui de l'arbitre anglais Tony Spreadbury. À la surprise générale, l'Argentine de Pichot, Hernandez et Contepomi vient de doucher toute la France qui voyait ce match d'ouverture face au Puma comme une mise en bouche d'une épopée unique de son 15. Parce que oui, pour la première fois de sa finalement jeune histoire en Coupe du Monde, le 15 de France est soutenu par tout un peuple. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que la France organise cette Coupe du Monde accueillant quasiment 100% des matchs importants. Et surtout, depuis quelques années, le rugby s'est fait une place dans les cœurs du grand public français. Depuis l'éclosion de Fred Michalak en 2003, que je vous ai présenté dans l'épisode précédent, cet engouement n'a cessé de grandir, et les fameuses valeurs de l'Ovalie commencent à plaire aux Français. Un homme symbolise tout cela à merveille, un certain Sébastien Chabal. Ce n'est pourtant pas un novice, sa première sélection en bleu date de 2000, il faisait partie de la sélection lors de la précédente Coupe du Monde, mais c'est en cette année 2007 que le grand public le découvre. La première raison à cela, son look bien sûr, façon homme des cavernes qu'il arbore depuis quelques mois. Et puis, en plus, une agressivité, une puissance et une capacité à plaquer qui fait des ravages aux quatre coins du globe. Ses deux victimes les plus notoires, il va se les faire lors de la tournée dans l'hémisphère sud pré-Coupe du Monde, sur le terrain des All Blacks. À la réception d'un coup de pied tout d'abord, il relance ballon en main pour aller s'encastrer dans le deuxième ligne Ali Williams, 2m02, 116 kg.
Sébastien Chabal, oui ! Premier tempo, attention derrière, ils sont trop All Blacks.
Résultat du choc pour ce dernier, une mâchoire cassée. Quelques minutes plus tard, c'est le troisième ligne, Chris Mazoé, qui va voir des étoiles.
Carter
avec un énorme tempo de Sébastien Chabal sur Mazoé.
Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal.
Focalisé sur la réception d'une passe de son demi de mêlée, il ne voit pas le bus aux cheveux longs qui se lance sur lui et qui le renverse dès que la balle atteint ses mains. Le numéro 8 se retrouve KO sous la violence de ce choc, pourtant parfaitement dans les règles. À partir de ce moment-là, Chabal, alias Cavernman, va devenir la coqueluche du public français, donnant de la voix à chacune de ses interventions défensives ou de ses courses balles en main.
Ouverture de Stein. Découpé par Sébastien Chabal.
Ce qui est marrant avec Chabal, c'est qu'il était loin d'être un joueur majeur. Il effectuera d'ailleurs toute la Coupe du Monde ou presque en tant que remplaçant pour apporter toute son énergie en fin de match. Mais ce soir du 7 septembre, sa rentrée fut à l'image de la prestation globale du 15 de France. Peu inspirée et insuffisante pour battre des Argentins gestionnaires. Le choc est d'autant plus terrible que c'est alors la première défaite en poule de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Subir cela alors qu'on est favori de la compétition et à domicile, forcément ça laisse des traces. Parce que oui, il y a la Chabalmania, mais objectivement, les Bleus sont favoris de cette Coupe du Monde. Vainqueurs du tournoi des 6 nations en 2007, ils ont un bilan équilibré ou presque contre l'Australie et l'Afrique du Sud sur les dernières années. La seule équipe, en fait, contre qui ils n'ont pas trouvé la clé, ce sont les All Blacks, qu'ils n'ont plus battus depuis 6 matchs. Et pas de chance, leur défaite inaugurale face à l'Argentine a pour conséquence directe de les priver de la première place du groupe, et donc 1. De les forcer à jouer leur quart de finale non pas en France, mais à Cardiff, et 2. Très certainement contre ces mêmes All Blacks, véritables bêtes noires depuis l'exploit de 1999. Bon, en réalité, la principale conséquence de cette défaite est avant tout qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur et qu'ils vont jouer leur survie, déjà, lors de tous les matchs de poule. Pour leur deuxième sortie, les hommes de Bernard Laporte vont démolir la faible équipe de Namibie, 87-10, avec notamment un essai de la star Chabal à l'issue d'une course de 50 mètres. Je vous mets l'extrait commenté par RMC pour vous faire sentir la folie que Chabal déclenchait à cette époque.
Et là, il y a du surnom. Chabal qui va fixer. Oh, Chabal, il est passé. Il est passé. Oh, quel jeu. Il déborde, Chabal. Il est énorme. Il va y aller. Il va y aller.
Voilà, Chabal c'était ça. Mais cette déculottée mise à la Namibie est loin de suffire pour la qualif, car c'est désormais l'Irlande qui fait face aux Bleus. Alors certes, ce n'est pas l'Irlande d'aujourd'hui qui trône au sommet du rugby mondial, mais c'est quand même un sacré client. C'est donc un match de poule, aux allures de 8e de finale, que vont jouer les Bleus au Stade de France. Le match est tendu, mais le 15 de France prend les commandes, coup de pénalité, pour mener 12-3 à la mi-temps. Et à la 59e minute, alors que le match se tend de plus en plus, la délivrance arrive.
Et Lissade va choisir Michalak, mais avec ce coup de pied.
Oh, que c'est bien joué, reste dans l'air de jeu. Reste là.
Qui va y aller. Oui. Magnifique combinaison avec Michalak qui donne ce coup de pied sur le fermé pour Vincent Clerc qui marque son 4e essai en Coupe du Monde.
Et oui, Trimble, le numéro 1.
Grâce à une combinaison appliquée à la perfection, Michalak sert sur un plateau Vincent Clerc qui se jette dans l'embute pour porter le coup de grâce décisif au 15 du trèfle et permettre à son équipe de s'imposer 25-3. Les Bleus sont en quart et la victoire de l'Argentine sur l'Irlande lors du dernier match de poule fait se réaliser le cauchemar de toute la France. C'est à Cardiff, face à l'ogre néo-zélandais, que nous allons jouer notre qualification. France-Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. On en est pour l'instant à un partout. Les All Blacks nous ont battus en finale en 87, et on les a battus, à la surprise générale, en 99. Cette rencontre est d'ailleurs restée un traumatisme sur l'île du Pacifique, qui n'a, en plus, plus été championne du monde depuis son succès inaugural. Ce match sentait la poudre. Et pour l'occasion, Bernard Laporte, le coach bleu, tente un coup, lassé de se faire pulvériser systématiquement. Il décide de titulariser le jeune Lionel Boxis à la place de Michalak et Skrela en numéro 10, ainsi que Damien Traille au poste d'arrière, une position qu'il n'a jamais occupée ou presque, avec l'idée de profiter de leur coup de pied de mammouth pour occuper le terrain et empêcher les Blacks d'étouffer nos Bleus. Franchement, le pari est plus qu'osé. Se passer de la star Michalak, habitué à ses joutes et valeurs sûres du rugby mondial, et faire confiance à Boxis qui, à 22 ans, ne s'est jamais frotté à ce niveau-là, c'est quand même une énorme prise de risque. Lui donner les clés du jeu ce soir-là relève soit de la folie, soit du génie. Et c'est le terrain qui décidera. Les joueurs entrent sur la pelouse, les hymnes retentissent, puis, comme 8 ans plus tôt, les joueurs français vont vouloir apporter une réponse aux haka néo-zélandais. Cette fois, pas de Marseillaise entonnée après coup, non, mais une volonté d'affrontement direct.
Alors, quelle sorte de haka vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale.
C'est bon, ça.
Le Millennium de Cardiff, déjà surchauffé, s'embrase durant ce haka que les deux équipes terminent nez contre nez. La tension est à son comble, alors que le coup d'envoi n'a pas encore été donné. Et elle ne va pas redescendre du match, qui va se révéler être d'une intensité folle. Tous les contacts sont rudes, les temps de jeu s'enchaînent, et à ce petit jeu-là, ce sont les Blacks qui tirent en premier leur épingle du jeu. Un essai transformé et deux pénalités de Carter portent le score à 13-0 à la 31e minute. Les Bleus se font détacher doucement mais sûrement au score, et surtout, ne trouvent pas de solution face à des Blacks trop rapides, trop bien organisés, qui ont la main mise sur le ballon. Heureusement, alors que la sirène indiquant la fin du temps réglementaire a retenti, Boxis passe une pénalité avec l'aide du poteau, malgré une glissade, pour revenir à 13-3. Toute la France a envie d'y voir un signe du destin. Un signal indiquant que ce soir, tout est possible. Et le début de la deuxième mi-temps conforte ce sentiment. Boxis réduit de nouveau l'écart d'une pénalité, et les Bleus remettent enfin la main sur le ballon, développent du jeu dans le camp adverse. Et à la 54e minute...
Péter plein de centre au milieu du terrain, libérer son ballon.
Oh, bien sûr, côté droit, on va aller chercher.
Et Lissal
rate la course.
Avec Claire.
Allez, rate la course,
avec
oui.
Du sautoir. Essai de du sautoir.
Raterait les courses, yeah, ouais, ouais.
Les Bleus sont en train de nous refaire le coup de 99, pense-t-on alors. La nouvelle transformation de Boxis remet les deux équipes à égalité. Et plus que jamais, on sent que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, cette fois-ci, ce sont les Blacks qui parviennent à se relever de cet essai encaissé et qui imposent leur loi de nouveau. À la 63e minute, le bulldozer Sohoyalo perfore la défense bleue pour aplatir dans l'embut. 18-13, le métronome Dan Carter, meilleur joueur du monde, rate alors une transformation, pourtant largement dans ses cordes. Un autre signe, espère-t-on. Mais il ne reste plus qu'un quart d'heure pour revenir, et les organismes sont fatigués. À la 68e minute, les Bleus obtiennent une mêlée à jouer sur leurs 40 mètres. Et c'est ce moment-là que choisit Bernard Laporte pour remplacer Lionel Boxis, auteur d'un match franchement solide, par Frédéric Michalak. Elissalde introduit le ballon en mêlée.
Allez, la sortie vers Traille, qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Evans, ouais, qui va retrouver Josio. Ouais. Josio, terre promise. Josio dans l'embut, et c'est français. Quelle relance, quel contre.
Oh, c'est bien vu, mais c'est notre mêlée.
Une mêlée maîtrisée, une sortie d'Arin Ordoki pour Traille, une accélération et une passe dans le tempo pour Michalak, et le demi d'ouverture fraîchement rentré parcourt 40 mètres ballon en main, avant de retrouver Josion à l'intérieur, qui aplatit le ballon dans l'embut. La transformation d'Elissalde permet aux Bleus de passer devant, alors que les 10 dernières minutes démarrent, 10 dernières minutes absolument irrespirables, où les Blacks campent dans nos 40 mètres, cherchant à nous mettre à la faute, pour récupérer une pénalité qui leur permettrait d'inscrire 3 points et de reprendre l'avantage au score. Chaque ruck est de plus en plus stressant, chaque plaquage est de plus en plus décisif, mais les Bleus tiennent bon, sans faire de faute. On a du mal à y croire, mais le temps file, et les Blacks ne parviennent pas à perforer notre défense, symbolisée par Thierry Dussautoir, auteur ce soir-là de 38 plaquages, tous réussis, record en la matière en Coupe du Monde. Le temps réglementaire se termine, mais les Blacks ne lâchent rien, ils croient toujours. On n'a pas envie d'y penser, mais on sent qu'à tout moment, nos rêves d'exploit peuvent venir se briser. Plus de 2 minutes après la sirène, comme un symbole, c'est Chabal qui arrache le ballon, pour le donner à Jean-Baptiste Elissalde, qui l'expédie en touche pour offrir la victoire à tout un peuple.
Sohoyalo pris par Arin Ordoki. Léonard.
Le ballon.
Avec
arrache,
Or maintenant. Arrache. Ouais, il est là le ballon. Elissalde, c'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. Quel exploit viennent de réussir les Français après 7 défaites consécutives contre les Blacks.
Les Bleus ont refait le coup de Twickenham 99, éliminant encore les Blacks, éjectés de la Coupe du Monde dès les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Porté par tout un peuple, le 15 de France vient de s'ouvrir la voie royale vers le trophée Webb Ellis en faisant tomber l'ogre néo-zélandais. Et en plus de cela, c'est face à l'Angleterre, notre bourreau 4 ans plus tôt, et au Stade de France, que cela va se jouer. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée magique. Les hymnes retentissent, le coup d'envoi est donné, et après une minute...
Gomarsal au pied, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Thierry Lacroix, la couverture de Traille. Oh, et le sénon de Josh Lucey sur cette hésitation de Damien Traille,
Ah là, c'est la catastrophe dès l'entame du match.
La grande classique. Quand tout est prêt pour célébrer, que les Français sont favoris, eh ben, les Anglais viennent gâcher la fête. Cet essai sera le seul du match, d'un côté comme de l'autre. Et comme 4 ans plus tôt, ce sont bien les Anglais qui vont nous neutraliser pour s'offrir une deuxième finale consécutive et climatiser le Stade de France qui n'en croit pas ses yeux. 14-9, même le score est nul. Mais la vérité est implacable, les Bleus sont une nouvelle fois éliminés de la Coupe du Monde. C'est un véritable drame à ce moment-là. Bernard Laporte, sélectionneur depuis 7 ans, est nommé ministre des Sports. Et c'est alors un nouveau cycle qui semble démarrer avec Marc Lièvremont nommé à la tête du 15 de France. Si on devait garder une expression pour résumer son mandat, les montagnes russes. En effet, l'irrégularité aura été totale durant ces 4 années au poste de sélectionneur. Au rayon des satisfactions, un grand chelem en 2010 dans le tournoi Destination, une victoire en Nouvelle-Zélande lors d'une tournée d'été, voilà pour les hauts. La liste des bas, elle, en revanche, fait peur. Une défaite en Italie, la première de l'histoire, des humiliations en Afrique du Sud 42-17, puis en Argentine la semaine d'après 41-13, une gifle monumentale au Stade de France face à l'Australie, 59-16, alors que le score était de 13-13 à la fin de la première mi-temps, je vous laisse imaginer la deuxième. Et, problème, toutes ces défaites sont arrivées moins d'un an avant la Coupe du Monde 2011, qui se profile en Nouvelle-Zélande. Pire que ça, il semble y avoir un ressort cassé dans cette équipe, entre les joueurs eux-mêmes, mais surtout avec le staff de Lièvremont. Le discours ne semble plus passer. La presse elle-même passe son temps à critiquer le sélectionneur. Et dès les premiers matchs de poule, tous ces maux se confirment. Avec 2 victoires certes, mais pénibles, contre les faibles Japon et Canada, avant de retrouver les All Blacks chez eux pour se disputer la première place. Bon, les 2 derniers matchs de Coupe du Monde contre les Blacks nous avaient fait rêver, mais cette fois-ci, pas de suspense, pas de remontée fantastique, non. Une défaite nette et sans bavure, 37-17, pour un 15 de la fougère qui aura même mené 29-3, laissant les Bleus en plein doute. Il reste alors un dernier match sans enjeu face aux Tonga, alors 13e nation mondiale, idéal pour rebondir, ou pour s'enfoncer. Et malheureusement, les Bleus vont continuer de creuser, et même toucher le fond. Les Tongiens jouent leur chance à fond, face à des Français amorphes, et finissent par s'imposer, à la surprise générale 19-14, prouvant que malgré une idée reçue, qu'au rugby, la supériorité physique, technique, finit toujours par prendre le dessus, la volonté et la cohésion restent la base. Et la cohésion a clairement fui les Bleus. Les relations avec la presse sont définitivement rompues, comme le montre cette réponse de Lièvremont.
Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ?
Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord ? On vient d'en prendre 40, donc elle est tordue. Je l'ai dit, on va penser à la qualification, ça te va comme ça?
Et le message de ce même Lièvremont ne semble plus du tout passer auprès de ses joueurs. Certains cadres semblent excédés par certains choix. Bref, plus rien n'anime cette équipe. Alors oui, elle s'est frayée un chemin complètement miraculeux pour l'écart, c'est d'ailleurs la seule fois de l'histoire qu'une équipe à 2 défaites se qualifie, mais elle s'apprête à affronter l'éternel rival anglais en quart. Fort d'un succès dans le dernier tour à destination contre les Bleus, menant 3-0 face à nous en Coupe du Monde et ayant terminé premier de leur poule, autant vous dire que les Anglais partent grandissimes favoris pour tous les suiveurs du monde entier. Et on ne voit pas bien comment nos Bleus pourraient s'en sortir. Alors, ont-ils réussi à se retrouver et à montrer que le célèbre dicton « impossible n'est pas français » est bien justifié ? Ou bien ont-ils buté une 4e fois et 3e fois consécutive sur Wilkinson et sa bande ? C'est ce que je vous propose de vivre ensemble lors du 4e et dernier épisode de notre série qui sortira très vite. À bientôt.
Vous avez aimé ? Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien.